18h-20h,
votre grand journal du soir,
Sébastien Krebs.
Bonsoir à tous, bienvenue à toutes et tous, ravi de vous retrouver, c'est parti donc pour cette nouvelle édition de votre grand journal du soir jusqu'à 20h à la veille de ce premier week-end déconfiné. 100 km, ça donne un peu d'air, avec à la une ce soir un mea culpa, celui d'Emmanuel Macron face à des soignants très remontés à la Pitié-Salpêtrière aujourd'hui, de vifs échanges et des promesses. On en parle dans votre journal à 18h, Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Et juste après le journal, 18h20, le témoignage d'un aide-soignant. Il a rencontré le président tout à l'heure, il l'a interpellé. Que retient-il ? La crise est profonde, comment en sortir à l'hôpital ? Et puis on va se détendre, c'est vendredi, on va prendre l'air en balade. Nouveau rendez-vous déconfiné dans quelques coins cachés de nos régions. On ira tout à l'heure sur la Côte d'Azur. Et puis tous nos experts culture seront là d'ici 20h pour quelques idées. Pour le week-end, je vous attends aussi au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. C'est votre grand journal du soir. C'est parti, bienvenue.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On est désespéré, on ne croit plus en vous. C'est gentil la prime.
Laissez-moi finir.
C'est la revalorisation.
C'est ce que je suis en train de dire.
Combien et quand?
Des promesses, encore des promesses, répondent les soignants après la visite surprise d'Emmanuel Macron ce matin à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le chef de l'État veut mettre fin à la paupérisation de l'hôpital et de ses personnels. Il reconnaît une erreur sur la réforme du système de santé engagée il y a 2 ans. On va investir, promet-il.
La mort à Marseille d'un premier enfant atteint d'une forme proche de la maladie de Kawasaki. Il avait 9 ans.
Sa sérologie indiquait qu'il avait été en contact avec le coronavirus sans en développer les symptômes dans les semaines précédentes.
On sera à Marseille avec Stéphane Frangy et on demandera au docteur Jimmy Mohamed s'il est prématuré de faire un lien entre cette maladie très rare qui touche les enfants et le coronavirus.
Après 2 mois de sevrage, les Français en quête de verdure et d'air pur sont avides de liberté pour ce premier week-end de déconfinement.
Et ceux qui vivent en bord de mer vont même pouvoir goûter de nouveau aux joies de la plage. Beaucoup sont de nouveau accessibles.
Trop hâte, on est tous hyper impatients. On a tous déjà préparé le maillot, la serviette et on espère pouvoir se baigner.
À Marseille, la grande question du moment, ça n'est pas est-ce que je vais pouvoir aller à la plage, mais plutôt qu'est-ce qu'il se passe à l'Olympique. On tentera d'y voir clair après le départ du directeur sportif Zubizarreta qui pourrait en entraîner d'autres. La bourse de Marseille a terminé ce soir en très légère hausse de 0,11% à 4278 points.
Oui, la bourse de Paris. À la tendance météo, Anissa, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir Sébastien et bonsoir à tous.
Toujours compliqué et agité dans le sud.
Oui, effectivement Sébastien, on attend encore de forts orages dans le sud. La journée va être très maussade demain sur la moitié nord. En revanche, c'est estival. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec Sébastien Krebs et Isabelle Millet.
On veut du pèse, on veut du flouze. Pour la deuxième fois, Emmanuel Macron s'est donc rendu ce matin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il a été pris à partie par le personnel soignant.
Une visite surprise, sans micro ni caméra. Et cette fois, Adrien Beck, le chef de l'État, est venu avec des promesses et un mea culpa.
Oui, devant les médecins, Emmanuel Macron a reconnu une erreur sur sa stratégie pour l'hôpital engagée il y a 2 ans. En clair, pas assez vite, pas assez fort. Pendant ses 4 heures de visite ce matin, le président a été interpellé plusieurs fois, comme ici, dans cette vidéo repérée par nos confrères de BFM. Vif échange entre Emmanuel Macron et 2 soignantes qui attendent plus qu'une médaille et une prime.
C'est gentil la prime.
Laissez-moi finir.
C'est la revalorisation.
C'est ce que je suis en train de dire.
De combien et quand?
Oui. Ce que je suis en train de dire.
Et parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous l'annonce.
Vous rajoutez des conditions.
Non, mais.
Sur chaque promesse, vous rajoutez des conditions.
Non, moi, je n'ai jamais fait de promesse.
On est désespéré, on ne croit plus en vous.
Moi, je n'ai jamais fait de promesse. Donc, vous avez raison de ne pas avoir cru en moi là-dessus. Parce que j'ai jamais fait de promesse là-dessus. Quand je fais des promesses, je les tiens.
Et justement, Emmanuel Macron en a pris l'engagement ce matin, mettre fin à la paupérisation de l'hôpital avec de meilleures rémunérations, des carrières revalorisées et plus d'investissements. Rien de chiffré, car le plan reste à construire. Olivier Véran va débuter la semaine prochaine les concertations et il y a urgence. Certains syndicats hospitaliers envisagent déjà une journée de mobilisation à la mi-juin.
Le récit d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1 avec donc ces sons et ces images qui ont été filmées par un téléphone portable. Il n'y avait pas de journaliste lors de cette visite. Comment les intéressés ont-ils vécu cette visite présidentielle et ces nouvelles promesses? Écoutez, Blandine Chauvel, elle est assistante sociale à la Pitié-Salpêtrière et membre du collectif Interhôpitaux.
Et elle est tombée par hasard sur le chef de l'État, elle l'a interpellé.
Je me suis un peu retrouvée nez à nez avec Monsieur Macron, ce qui était un peu inattendu pour moi. Et bon, voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de lui dire ces quatre vérités, donc ça a été l'occasion de le faire. Il m'a demandé c'était quoi les problèmes, selon moi, dans l'hôpital. Moi, je lui ai dit, il paraît qu'on est les héros de la nation, et voilà, sauf que moi, j'ai quand même la réalité, c'est que nos salaires sont très bas, et que là, moi, j'ai une collègue, l'autre jour, qui m'a dit qu'elle n'arrivait plus à payer son loyer, qu'elle allait quitter l'hôpital, parce que c'était plus possible pour elle de devoir choisir entre bouffer et payer son loyer, et c'est la réalité de plein de gens à l'hôpital. Donc je lui ai dit que les conditions de travail aussi étaient très mauvaises, qu'il y avait un gros problème de sous-effectif qui n'allait pas s'arranger. Donc il m'a fait un oui, mais je vous ai entendu, je comprends et autres, mais je vous promets un grand plan avec des augmentations de salaire. Et moi je lui ai dit écoutez, oui, moi je veux bien, mais ça fait un an qu'on le demande, ça fait un an qu'on se bat pour, donc c'est quand que ça arrive, quoi. On n'y croit pas trop, quoi.
Une assistante sociale de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière qui a donc interpellé Emmanuel Macron ce matin. Elle répondait à Hélène Terzian.
Et à 18h20, juste après le journal, je reçois un aide-soignant, Aïssou Asdine. Il est secrétaire général de la CGT, justement à La Pitié-Salpêtrière. Il était tout à l'heure présent lors de la visite du président.
À Marseille, un enfant de 9 ans a succombé à une forme proche de la maladie de Kawasaki à l'hôpital de la Timone. Il n'avait pas développé les symptômes du Covid-19, mais les tests sérologiques ont montré qu'il avait été en contact avec le coronavirus. Stéphane Frangy, l'hôpital a tenu une conférence de presse tout à l'heure et donné des précisions.
Eh bien, ce garçon a été admis une première fois aux urgences le 2 mai dans la journée pour des symptômes de fièvre, d'éruption cutanée. Le diagnostic posé est donc celui d'une scarlatine dont les signes visibles ressemblent à ceux de la maladie de Kawasaki. Pas de signe de gravité, il va donc rentrer chez lui. Mais dans la soirée, il va faire un arrêt cardiaque et le SAMU le transfère donc à la réanimation pédiatrique du professeur Fabrice Michel.
L'enfant présentait des signes pouvant ressembler à une maladie de Kawasaki. Sa sérologie, pratiquée au sein du service de réanimation pédiatrique, indiquait qu'il avait été en contact avec le coronavirus sans en développer les symptômes dans les semaines précédentes. La pathologie de cet enfant a entraîné une atteinte cardiaque qui a provoqué un arrêt cardiaque et des lésions cérébrales qui en ont suivi, cause de sa mort. Par respect pour la douleur de la famille et en raison du secret médical, aucune autre information ne sera communiquée.
Voilà, et d'après ce professeur, il s'agit du premier cas mortel de syndrome de Kawasaki recensé en France, le second en Europe.
Les précisions de Stéphane Frangy à Marseille pour Europe 1. Stéphane le disait, il s'agit du premier décès de ce type recensé en France et même en Europe. Et forcément, ça nous interpelle et ça nous inquiète beaucoup. On en parle ce soir avec vous, docteur Jimmy Mohamed. Bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
Alors le nombre de cas d'enfants atteints de cette maladie, très rare on le rappelle, a augmenté ces dernières semaines, pas seulement dans notre pays. Évidemment chaque cas est particulier, c'est très difficile, on le sait bien, de généraliser, mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur le lien entre cette maladie qui touche les enfants donc et le Covid-19?
Alors pour l'instant on ne parle pas d'épidémie, mais un nombre croissant, inquiétant de nombre de cas de Kawasaki, cette maladie qu'on connaît, qui touche habituellement plutôt de jeunes enfants qui ont en moyenne 2 ans. Et là une particularité, c'est qu'ils sont un peu plus vieux, ils ont entre 5 et 15 ans, avec une singularité, c'est qu'ils ont tous été en contact avec le Covid, même s'ils n'ont pas eu de symptômes, ils ont une sérologie qui revient positive, ce qui nous laisse penser qu'il y aurait un lien, même si celui-ci doit être prouvé, entre le coronavirus et cette maladie de Kawasaki, comme s'il faisait une forme de réaction post-infectieuse. En tout cas, ce qu'on peut dire aux parents, c'est si jamais vous avez un enfant qui fait de la fièvre durant plus de 48 heures, il est important de prendre contact avec votre médecin, car avec le confinement, il n'y a quasiment plus de maladies infectieuses et donc toute fièvre doit être considérée comme suspecte, même si très certainement ce ne sera pas très grave, mais un avis médical s'impose.
Oui, et c'est pris donc très au sérieux, hein, puisque l'OMS dit ce soir étudier un lien possible entre le Covid-19 et cette maladie de Kawasaki. Merci docteur Jimmy Mohamed. À lundi dans ce journal de 18h et vous serez dès 15h avec Mélanie Gomez, bien sûr, pour l'émission Santé sans rendez-vous sur Europe 1.
Deux études, l'une française et l'autre chinoise, mettent en doute l'efficacité de l'hydroxychloroquine, que ce soit chez des patients gravement ou plus légèrement atteints. Dans les deux cas, elle n'a pas permis de réduire le nombre d'admissions en réanimation ni les décès.
Et l'hydroxychloroquine, toujours défendue par le professeur Didier Raoult, qui dénonce la méthodologie de ses études. On va y revenir, on va en reparler dans les grandes voies à 18h30 avec notamment Ève Roger qui sera avec nous.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Isabelle Millet.
À suivre, les maillots de bain sont prêts pour ce premier week-end de déconfinement. Les chanceux qui vivent en bord de mer vont pouvoir retrouver la plage. Mais attention, sans bronzette hein, et sans pique-nique non plus.
Et puis l'Olympique de Marseille replonge en eau trouble. Le départ du directeur sportif Zubizarreta risque de provoquer celui de l'entraîneur André Villas-Boas, alors que les finances sont dans le rouge.
Et maintenant, voici la Minute Maison avec les experts Leroy Merlin.
Et bien aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de David Desmarais, qui est le responsable de la partie jardin du magasin Leroy Merlin de Logne. Alors David, vous nous avez donné quelques conseils pour bien préparer son jardin ou son potager lorsqu'on a la chance d'avoir un jardin. Cela dit, si on est en appartement, est-ce qu'on peut vraiment manger ces légumes qu'on fait pousser sur son balcon ?
Oui, c'est possible d'avoir des fruits et des légumes sur son balcon et sa terrasse.
Alors quel type de légumes, quel type de fruits ?
Alors on peut tout avoir, des tomates, des framboises, même des pommes et des poiriers en sélectionnant des variétés naines.
Mais ça se fait pousser comment ? Dans des bacs ?
Dans des bacs, des jardinières. Bien entendu, on sélectionne des gros bacs et des grosses jardinières avec bien entendu aussi le terreau adapté pour éviter d'arroser régulièrement.
Alors, il faut, je suppose quand même qu'on soit bien orienté, qu'il y ait un minimum de soleil.
En fonction de l'orientation soleil ou pas, on sélectionnera les variétés adaptées.
Voilà, et puis je rappelle que l'on peut retrouver tous les produits dont ceux de jardinerie, bien sûr, dans les magasins Leroy Merlin et les bons conseils dans les tutos et vidéos sur leroymerlin.fr. Merci David, à bientôt.
À très bientôt.
Et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau conseil pratique avec Leroy Merlin.
Ça y est, nous y sommes. Alors, soyons optimistes.
Comme chez Fiat.
Pour ça, on devrait pouvoir partir sans payer.
Justement, chez Fiat, tu prends ta voiture maintenant et tu payes en 2021.
Ah ouais, mais l'optimisme, ça serait aussi des remises valables pour tous.
Chez Fiat, elles sont sans condition et avec un crédit super intéressant.
Génial. Et pour éviter les mauvaises surprises ?
Leur garantie 10 ans. Rassurez.
Optimiste.
Fiat vous accompagne avec le contrat optimisme, 5 mesures jamais vues. Car chez Fiat, l'optimisme est toujours la solution. Dans le réseau participant jusqu'au 2 juin, payé en 2021 sous condition de location longue durée et acceptation par Lesys France. Détails sur fiat.fr.
18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Isabelle Millet.
Et respirer l'air pur, marcher en forêt ou sur la plage, les Français en rêvent après 2 mois coincés entre 4 murs. Beaucoup ont l'intention de profiter de ce premier week-end de déconfinement.
Alors sortir, oui, mais attention, sans faire n'importe quoi, il faut respecter toujours les consignes, d'abord les fameux 100 km maximum autour de chez soi. D'ailleurs, les forces de l'ordre seront vigilantes, il y aura des contrôles dès ce soir.
En tout cas, pour certains d'entre vous, ce week-end sera l'occasion sans doute de remettre les pieds dans le sable ou bien dans l'eau, si vous n'êtes pas trop frileux. De nouvelles plages sont en effet accessibles depuis aujourd'hui, Justin Morin.
Oui, à commencer par celle du Pas-de-Calais entre 8h et 21h. Les décrets préfectoraux sont tout frais de ce matin. Les habitants du Nord vont pouvoir profiter des longues étendues de sable et de la mer sur 18 plages. Le Touquet, le Portel ou encore Berck-sur-Mer, où les activités nautiques vont aussi pouvoir reprendre. La saison peut enfin commencer pour Jérôme Buzelin, patron de l'école Opal Kite et lui-même kitesurfer.
C'est le mot enfin, libération et pressé de fouler le sable blanc. Ça me manque depuis un mois et demi. Là, c'est vrai que ça commence à faire long. J'avais commencé la saison le 7 mars et depuis rien, donc ça fait vraiment plaisir.
La règle est simple, c'est le concept de plage dynamique, pas de serviette au sol, on y va pour bouger. Idem en Normandie ou en Gironde, avec un accès possible dès 6 heures pour que les surfeurs profitent des meilleures vagues. Louise Bordelaise est en train d'organiser une virée pour revoir l'océan.
Trop hâte, j'y vais avec des amis, ouais. On remplit une voiture, on y va à 5 et on est tous hyper impatients. On a tous déjà préparé le maillot, la serviette et on espère pouvoir se baigner. Ça m'a beaucoup manqué, ça fait 4-5 mois que je n'y suis pas allée, donc j'ai quand même
sur la Côte d'Azur, 13 communes dont Nice et Cannes viennent de recevoir le feu vert du préfet, toujours avec les mêmes règles.
Justin Morin, et même à la montagne, le lac d'Annecy rouvre au sport et aux loisirs nautiques, le lac Léman à la navigation et à la pêche.
Et si vous souhaitez prendre l'air en région parisienne, sachez que les 39 forêts publiques sont rouvertes, là encore uniquement pour la promenade ou la pratique de sports individuels. Pas de pique-nique autorisé, des brigades équestres seront là pour vous le rappeler.
Et puis depuis ce matin, les réservations sur le site internet de la SNCF sont ouvertes pour l'été, pour juillet-août, fréquentation en nette hausse, hein, hausse de 120% depuis que le Premier ministre a annoncé que les Français pourront partir en vacances en France cet été. On y revient bien sûr dans le journal de 19h.
Et si vous aviez réservé des vacances en avion cette fois, vous avez sans doute constaté que ça n'était pas toujours facile de se faire rembourser alors même que votre vol est annulé pour cause de pandémie. Eh bien, la Commission européenne a fait une mise au point aujourd'hui.
Les compagnies aériennes qui opèrent en Europe sont tenues de rembourser tous les passagers qui en font la demande. Les avoirs doivent rester facultatifs et si possible assortis de garanties.
La situation semble commencer à se stabiliser en Europe. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. Le gouverneur de l'État de New York prolonge jusqu'au 13 juin le décret de confinement qui expirait ce vendredi, sauf pour 5 régions les moins peuplées de cet État de 20 millions d'habitants. Et puis le ministre brésilien de la Santé a présenté sa démission cet après-midi pour des divergences de vues sur les mesures de lutte contre le coronavirus avec le gouvernement.
En France, il n'y a pas que les accidents de voitures qui ont diminué pendant le confinement, le trafic de drogue aussi.
Entre 30 et 40% de baisse, chiffre fourni aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur qui met en garde contre de nouvelles pratiques comme la culture de cannabis à domicile. Accablé de dettes, Prestalis, le principal distributeur de presse en France, évite la fermeture mais voit ses filiales en région liquidées avec plus de 500 salariés sur la sellette.
On en vient, Isabelle, à la situation à l'Olympique de Marseille.
Et oui, même quand il n'y a pas de match, c'est toujours compliqué. Hein. À l'OM, on a appris hier soir le départ du directeur sportif Zubizarreta, départ qui pourrait en entraîner un autre, celui de l'entraîneur André Villas-Boas, et qui en tout cas déstabilise beaucoup le club qui pourtant cette année a plutôt bien réussi, hein, puisque Marseille est deuxième et qualifié pour la Ligue des Champions.
Julien Froment, on s'arrête là-dessus avec vous. Qu'est-ce qui se passe à l'OM et comment se présente la suite ?
Alors ce que l'on sait, c'est que André Villas-Boas a rencontré le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault. Il serait reparti chez lui à Porto avec une proposition de prolongation de contrat, mais la tendance est plutôt à la rupture. Le Portugal a dit son avenir est intimement lié à celui de Zubizarreta. Villas-Boas a aussi réclamé des garanties pour la saison prochaine, notamment en termes de recrutement, car l'OM va rejouer la Ligue des Champions après 7 ans d'absence. Pour le moment, il n'en a aucune. C'est une histoire de gros sous. Marseille a trop dépensé et pas assez vendu. Résultat, le fair play financier rôde et pourrait même exclure l'OM de la Ligue des Champions si le club ne vend pas pour 60 millions d'euros d'ici le 30 juin. Enfin, concernant le successeur de Zubizarreta, j'ai passé quelques coups de fil et il y a peu de chances pour que ce soit Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du PSG. Cette piste est farfelue, m'a-t-on confié. Antero Henrique serait d'ailleurs proche de s'engager avec les Anglais de Manchester United. Le poste de directeur sportif, c'est mission impossible à l'OM, m'a-t-on aussi soufflé. Il va falloir beaucoup vendre et peu acheter. Un programme qui ne risque pas de rassurer les supporters marseillais.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal d'Isabelle Millet qu'on retrouve bien sûr à 18h30 pour le rappel des titres. D'abord la météo. Anissa, c'est toujours donc compliqué et agité dans le sud.
Oui, c'est ça exactement, Sébastien. Dans la matinée, c'est uniquement sur les Pyrénées que le ciel sera gris. Et puis dans l'après-midi, sur les Alpes et la Provence, le mauvais temps va se généraliser. Un temps très agité avec des orages jusque sur la Côte d'Azur. En Corse, le ciel reste couvert mais sans pluie. Et puis au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon, vous coupez la France en deux. Eh bien au nord, c'est très ensoleillé, Sébastien. Il va faire beau demain. Dans un ciel sans nuages, le soleil va briller. Les températures du matin, elles sont comprises entre 0 et 16 degrés. 0 à Charleville-Mézières, 4 à Lille et Nancy, 7 à Paris et 16 pour Ajaccio. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 12 à 18 près de la Manche, 17 à 21 degrés en général et 21 à 23 au bord de la Méditerranée, mais sous la pluie.
Europe 1.
Et la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Sébastien Krebs et avec votre invité dans un instant.
Oui, les échanges ont été vifs aujourd'hui à la Pitié-Salpêtrière lors de la visite d'Emmanuel Macron. Dans un instant, un témoin de cette visite, l'aide-soignant Aïssou Asdine, secrétaire général de la CGT de l'hôpital. Il a rencontré Emmanuel Macron, il l'a interpellé, il vient réagir et nous dire ce qu'il en pense dans un instant.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Sébastien Krebs. C'est suite à la visite ce matin d'Emmanuel Macron, soignant de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous recevez Aïssou Asdine, aide-soignant et secrétaire général de la CGT de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Bonsoir Aïssou Asdine, bonsoir. Pardon. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Bienvenue sur Europe 1. Merci de nous répondre ce soir en direct. Vous y étiez aujourd'hui à la Pitié-Salpêtrière lors de la visite d'Emmanuel Macron. Ça a été animé, on l'a entendu dans le journal. Ça a été vif dans les échanges. Il a été vivement interpellé par les soignants. Comment vous l'avez senti? Qu'est-ce que vous en retenez ce soir?
Nous avons effectivement rencontré Monsieur le Président de la République et nous avons pu échanger avec lui et lui faire part des mauvaises conditions de travail de l'ensemble des collègues, toutes catégories, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et dans l'ensemble de nos hôpitaux en France. Nous lui avons fait part que nous avons des salaires exécrables, des salaires les plus bas de l'Europe, que nos conditions sont inacceptables et lui avons dit aussi qu'aujourd'hui, la population a pris conscience que l'hôpital était en danger.
Est-ce que je peux vous poser une question? Vous y répondez si vous voulez. Combien gagne un aide-soignant comme vous aujourd'hui et combien d'heures vous travaillez à l'hôpital et sur quelle vacation?
1200 euros, 1300 euros. Et après, c'est les primes du samedi, du dimanche, les primes de nuit qui font qu'il y a un salaire qui... voilà, c'est un salaire... Je vais vous répondre qu'aujourd'hui, un grand nombre d'aides-soignants et d'infirmiers sont en commission de surendettement. Surendettement, aujourd'hui. Voilà.
Et ce sont les héros qu'on applaudit. Enfin, vous en faites partie, les aides-soignants, il y a les infirmiers, il y a évidemment les médecins, les héros qu'on applaudit aux fenêtres à 20h depuis deux mois maintenant.
Et les adjoints administratifs, les ouvriers qui travaillent à l'hôpital, qui ont la culture hospitalière, tous les acteurs et animateurs qui font tourner l'hôpital, ces femmes et ces hommes qui font le ménage dans les sous-sols. Voilà. Effectivement, je ne sais pas si c'est les héros, en tout cas, nous faisons notre travail de service public pour la population. Voilà, et c'est ce que nous avons dit, et c'est ce que j'ai dit au président de la République en lui disant qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'à l'hôpital public, pour des raisons économiques, la France, les gouvernements successifs ont décidé de délocaliser la fabrication des masques dans d'autres pays pour une question de coût, et qu'aujourd'hui, nous en payons les conséquences.
Le président qui a d'ailleurs été interpellé sur des masques qui étaient périmés, utilisés par les soignants. Il a répondu, nous serons au rendez-vous, c'est une promesse hein, ce soir, nous serons au rendez-vous pour mettre fin à la paupérisation des soignants. Vous le dites, c'est vraiment l'urgence. Vous croyez en cette promesse ce soir?
Alors, je vais être très, très franc avec vous. Moi, je suis à la CGT. Je vais vous dire aujourd'hui que, oui, le président de la République... a tenu ses engagements en revenant aujourd'hui nous rencontrer. Il a rencontré les salariés. Maintenant, les promesses, je ne sais pas si je demande qu'à voir, mais en tout cas, si ces engagements ne seront pas respectés, une chose est sûre, c'est que nous avons la population, toutes celles et ceux qui étaient sur leur balcon, qui nous ont applaudis, ils seront demain dans la rue avec nous si nous devons manifester, parce que c'est leur santé à eux qui est en danger.
Vous dites qu'il faut, à terme, alors on va attendre un peu que le déconfinement soit réel, j'imagine, mais vous dites à terme, il faut une grande manifestation à laquelle les Français pourraient se joindre.
Aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, si nous devons retourner dans la rue pour exiger de vrais moyens, la population va venir se joindre, parce que c'est lorsqu'on est dans la rue, on se bat pour quoi? On ne se bat pas pour nous, on se bat pour la population, pour les services publics, pour l'offre de soins. Et avant que le président revienne aujourd'hui, on l'avait interpellé en disant... qu'il y a une grande perte de chance. Beaucoup de Françaises et Français meurent parce qu'ils n'ont pas été pris à temps à l'hôpital. Cette perte de chance, elle existe, elle est réelle. Il est important de dire que si aujourd'hui on a eu tant de morts dans notre pays, c'est parce que les infrastructures, nos hôpitaux n'étaient pas prêts. Et on l'avait dit depuis des années, qu'on n'était pas prêts.
Alors il va y avoir une prime qui avait été promise pour les soignants. Elle arrive, le décret a finalement été... signée, publiée aujourd'hui. Est-ce que vous savez quand elle sera versée? Est-ce que vous en savez plus ce soir?
Alors, je vais vous répondre. Ils ont signé ce décret hier. Cette prime à l'assistance publique arrivera fin mai. Mais le personnel, effectivement, on ne va pas cracher sur l'argent. On a besoin d'argent pour les fins de mois.
Là, c'est 1 500 euros pour tous les soignants dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie.
C'est ça. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons et ce que nous avons demandé au président de la République, nous, on ne veut pas une prime ou des médailles ou que la population nous donne leur jour de RTT. Nous, on veut et on exige la revalorisation de notre salaire.
Et vous voulez combien? Combien vous demandez aujourd'hui, très concrètement?
Écoutez, il nous faut déjà d'office 300 euros d'augmentation. Et nous, ce qui est important de savoir, c'est que la France, pays riche, où nous avons les moyens... les infirmières sont au 17e rang au niveau de l'Europe, les plus mal payées.
Et pourtant, il y a un paradoxe très français. La France est le pays qui consacre la part la plus élevée de sa richesse nationale à son système de santé par rapport à nos voisins européens. On dépense plus. Pourquoi nos voisins font mieux avec moins? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris en France? C'est plus qu'une question d'argent.
Je ne vais pas rentrer dans la co-gestion de gérer un établissement. Aujourd'hui, c'est simple. À l'hôpital, le budget, l'argent que l'hôpital a en termes de budget devrait aller directement au niveau de la masse salariale des salariés. C'est pas injecté au niveau de ces infirmières, de ces aides-soignants administratifs. Voilà. L'argent est insuffisant. Et alors, je ne sais pas comment ils dépensent, parce que certainement, ils font un gaspillage qui est inapproprié.
Il y a un problème d'organisation, de rationalisation probablement dans tout ça.
Vous savez, la Cour des comptes a démontré depuis des années des dysfonctionnements. Revoyez au niveau de la Cour des comptes, il y a des choses qui sont inadmissibles. Voilà. Et ça ne vient pas du petit personnel. Ça vient de leur gaspillage qui est excessif. Voilà. Ça, c'est une réalité.
En tout cas, les cas, ce que vous nous dites ce soir, c'est que la mobilisation va continuer. D'ailleurs, vous appelez à manifester, en tout cas, à une journée de mobilisation à la mi-juin, c'est ça?
Alors, j'attends les directives de notre organisation syndicale, de ma fédération Santé Action Sociale, de ma confédération, les directives. Mais en tout cas, effectivement, si nous devons aller dans la rue, ce que nous souhaitons, mais nous souhaitons aussi que la population vienne dans la rue. Il faut que la population soit là et que demain, on obtiendra de vrais budgets. Parce que c'est important de dire qu'aujourd'hui, le personnel ne se bat pas pour leur salaire, se bat pour accueillir la population dignement, d'arrêter de laisser des patients dans les couloirs, d'arrêter de voir des patients qu'on ne peut pas prendre en charge de façon digne. On se bat pour de vrais moyens pour l'hôpital. Arrêtez de fermer les hôpitaux. Arrêtez la suppression des lits. Sur la Pitié-Salpêtrière, 200-250 lits. Dans de nombreux établissements de la PHP, il y a des lits qui ont été supprimés, fermés. Fermeture d'hôpitaux. Nous, on veut des hôpitaux. Regardez.
Et on l'entend, vous appeler tous les Français qui vous ont applaudi aux fenêtres à vous rejoindre. Alors à la mi-juin, on verra si effectivement il est possible à ce stade d'organiser une manifestation. C'est pas dit, mais il faudra peut-être trouver une manière d'organiser cette mobilisation. Merci beaucoup Aïssou Asdine d'avoir été en direct ce soir et de réagir. Vous étiez donc à la Pitié-Salpêtrière aujourd'hui lors de la visite d'Emmanuel Macron. Vous êtes aide-soignant et secrétaire général de la CGT. Merci, bonne soirée.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec la suite, Sébastien Krebs.
Le rappel des titres d'Isabelle Millet et puis on va revenir sur ce sujet et sur d'autres avec les grandes voix qui nous rejoignent. À tout de suite.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
Et le rappel des titres d'Isabelle Millet.
À Marseille, un enfant de 9 ans atteint d'une forme proche de la maladie de Kawasaki a succombé à l'hôpital de la Timone. Il n'avait pas développé les symptômes du Covid-19, mais les tests sérologiques ont montré qu'il avait été en contact avec le coronavirus. Ce soir, l'OMS dit étudier un lien éventuel entre cette maladie de Kawasaki et le Covid-19. Un début d'autocritique pour Emmanuel Macron. En visite ce matin à la Pitié-Salpêtrière, à Paris, le chef de l'État a reconnu une erreur à propos de sa réforme du système de santé et dit vouloir mettre fin à la paupérisation de l'hôpital. Les personnels soignants vont pouvoir toucher la prime de 500 euros et même de 1500 pour ceux qui ont travaillé dans les départements les plus touchés par l'épidémie. Le décret est paru aujourd'hui au Journal officiel. Les autorités sont inquiètes. Elles espèrent que les Français seront raisonnables pour ce premier week-end de déconfinement. Les contrôles seront renforcés sur les routes notamment. Pas question, on le rappelle, d'escapade à plus de 100 km de son domicile. Certains chanceux pourront en tout cas de nouveau se promener sur les plages de leur région qui pour certaines viennent de rouvrir.
Le journal complet avec vous Isabelle Millet, tout à l'heure à 19h. La météo, Anissa, encore une grande différence hein, entre le nord et le sud.
Oui, c'est vrai qu'on a le même scénario hein, depuis le début de semaine. Eh bien, ça va continuer demain et tout au long du week-end. C'est-à-dire que vous tirez une ligne qui va de Bordeaux jusqu'à Lyon. Au sud de cette ligne, le temps est très agité, surtout sur l'extrême sud. Des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur, on attend des orages parfois forts demain après-midi. Et puis au nord de cette ligne Bordeaux-Lyon, eh bien là, le ciel est complètement dégagé. Un bleu azur dans lequel le soleil va s'imposer très franchement demain après-midi. Les températures fraîches le matin encore avec 4 à 8 degrés sur la moitié nord, 8 à 15 sur la moitié sud et puis dans l'après-midi, eh bien les températures sont bien en dessous des normales de saison avec 19 à Besançon et Carcassonne, 15 à Cherbourg, 20 à Paris et jusqu'à 26 pour Ajaccio.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Sébastien Krebs et pour décortiquer l'actualité de ce vendredi, les grandes voix sont là autour de vous, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie et tous les soirs nous sommes à vos côtés en région, ce soir direction Lyon avec notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir à tous.
Merci d'être là. Mais oui, vous êtes nombreux aujourd'hui. Merci d'être là pour les grandes voix. On va revenir d'abord sur cette visite houleuse aujourd'hui d'Emmanuel Macron à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le président a attendu au tournant par les soignants. Écoutez.
C'est gentil la prime.
Laissez-moi finir.
C'est la revalorisation.
C'est ce que je suis en train de dire.
De combien et quand?
Oui. Ce que je suis en train de dire.
Et parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous l'annonce.
Vous rajoutez des conditions.
Mais
sur chaque promesse, vous nous rajoutez des conditions.
Non, moi, je n'ai jamais fait de promesse.
On est désespéré. On ne croit plus en vous.
Moi, je n'ai jamais fait de promesse. Donc, vous avez raison de ne pas avoir cru en moi là-dessus, parce que j'ai jamais fait de promesse là-dessus. Quand je fais des promesses, je les tiens.
Voilà, de vifs échanges. La crise est profonde à l'hôpital. Elle réapparaît, Ève Roger, aujourd'hui. Il y a cette colère. On le sentait depuis quelques jours. La colère remonte chez les soignants avec cette épidémie qui recule.
Oui, c'est vrai qu'il y a une place qui est faite pour cette contestation. Mais ce que je trouve important, et qu'on a peu dit, c'est qu'on a entendu l'aide-soignant, votre invité, qui disait les lits ferment. Mais pourquoi les lits ferment? Pas seulement pour faire des économies, les lits ferment parce qu'il n'y a plus de personnel à l'hôpital public. C'est-à-dire que les infirmières, les aides-soignantes, les manipulateurs radio, eh bien, ils quittent l'hôpital public, mais en masse, parce que justement, les salaires sont très faibles.
1200 euros, nous disait l'aide-soignant qui était avec nous tout à l'heure.
Et vous le savez, comme moi, quand on habite en Île-de-France, on ne peut pas être logé à Paris, alors que c'est vrai que l'excellence de l'hôpital public est en partie à la PHP et à 39 hôpitaux. Et si on n'habite pas, on est obligé d'habiter loin. Donc ça veut dire des temps de transport incroyablement longs, des enfants qu'on n'arrive pas à faire garder, des crèches où il n'y a pas de place. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est à la fois les gens qui sont là ont un salaire faible, mais il y a de plus en plus de gens qui s'en vont, qui vont dans le privé. La mort dans l'âme. Moi, j'ai fait des interviews en janvier-février, j'ai des infirmières qui disaient, mais ça nous fait de la peine de quitter l'hôpital public, sauf qu'on ne peut plus rester à ces postes-là parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Vous savez, il y a les professeurs de médecine qui les soutenaient. Il y en a un qui me disait, moi, j'ai plus de manipulateur radio dans mon service, je suis obligée d'aller en face, de traverser, d'aller au labo privé en face faire les radios parce qu'il n'y a plus de manipulateur radio, parce que les manipulateurs radio ne veulent plus travailler à l'hôpital public à cause des salaires. Donc c'est vrai qu'il faut de l'argent pour ceux qui sont là, mais il faut surtout de l'argent pour ceux qui sont partis et qui voudraient revenir. Et c'est vrai que Martin Hirsch, le patron de la PHP, parlait d'une parenthèse enchantée pendant cette période, parce qu'il y a aussi tout le privé qui est venu, tous les renforts, et donc il faudrait essayer de garder tout ces gens qui ont été tellement heureux, tellement fiers de faire partie de cette aventure.
Et cette semaine, ce qui a échauffé un peu les esprits, c'est que ce qu'on a entendu, c'est il y aura un 14 juillet dédié aux soignants, il y aura des médailles, il y aura des légions d'honneur. C'était quoi? C'était une maladresse? Ça a été très mal pris chez les soignants?
Bien sûr, parce que tous sont dit, on s'en fiche des médailles. Et même il y en a qui disent, même quand on applaudit, qu'ils s'en fichent aussi de ces applaudissements. Alors, mais j'imagine que ce sentiment-là n'est pas forcément partagé par tous. Mais c'est vrai que la prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital, elle est faible, surtout auprès du grand public, parce que tout le monde adore l'hôpital quand on y est et quand on a été soigné. Après, qu'est-ce qui s'y passe? Il y a une forme d'indifférence. Mais vous verriez les locaux de certains hôpitaux les plus prestigieux de Paris, ça fait peur. Ça fait peur. Donc il y a même des budgets qui ont été créés pour réparer les murs, les plafonds. C'est incroyable.
Michaël Darmon, je me tourne vers vous. Emmanuel Macron s'est mis en première ligne sur ce dossier aujourd'hui. Il y a même eu une forme de mea culpa dans sa bouche aujourd'hui sur ce dossier de l'hôpital.
Oui, tout d'abord, avant de passer à l'aspect critique de l'affaire, il faut évidemment reconnaître que, comme à son habitude, Emmanuel Macron va en première ligne, n'hésite pas à aller au contact. Il savait pertinemment qu'il serait accueilli de manière un peu musclée, ou en tout cas protestataire aujourd'hui, parce qu'il a bien compris effectivement que la colère remontait, mais il a quand même voulu ce face-à-face. Et ce face-à-face va rester comme une des scènes emblématiques du quinquennat, qui vient cristalliser toute une ambiance, toute une approche, un état d'esprit de l'opinion au-delà des personnels soignants. Ce que l'on a vu aujourd'hui, au fond, c'est assez paradoxal. Il a voulu faire un peu la boucle bouclée. Il a commencé, on se souvient, au tout début de la crise, ses déplacements à la Pitié-Salpêtrière. Il avait été déjà interpellé par un neurologue qui l'avait interpellé vivement sur le plan hôpital. Montréal, au moment où du déconfinement, il revient au même endroit. Et on a l'impression, c'est vrai, que alors qu'on doit se projeter officiellement vers un monde nouveau, eh bien, on revient au monde d'avant. C'est-à-dire, rien n'a changé. La crise de l'hôpital est toujours aussi puissante, toujours aussi forte, même encore un peu plus après ce qui s'est passé. Et là, il y a la phrase, je dirais, marquante, claquante. On ne croit plus en vous. Cette phrase, elle va très certainement avoir une onde de choc à travers l'opinion, au moment où justement il essaye, lui, le président de la République, de trouver un nouveau projet pour embarquer tous les Français et pour renouer avec cette confiance. C'est ce que on nous explique partout, à tous les étages de l'exécutif.
Et Emmanuel Macron le défi. Qui reconnaît que c'est très cruel pour lui, mais que il dit la stratégie qu'on avait, elle aurait été super il y a 10 ans. Et en fait, il se rend compte aujourd'hui que tout le plan hôpital qui a été proposé quand il y a quelques mois à peine n'est pas du tout adapté au contexte.
En fait, il subit la justesse de son diagnostic. Souvenez-vous, depuis le début du mandat, il dit je dois régler des problèmes qui n'ont pas été depuis 30 ans. Donc ça tombe sur lui. Effectivement, la situation de l'hôpital n'est pas uniquement, il faut être honnête, n'est pas uniquement liée à son fait et à sa politique depuis son élection. Ça remonte bien avant. Mais c'est lui qui aujourd'hui est le président, c'est lui qui est en responsabilité. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs plans hôpital qui n'ont pas donc été satisfaisants. Tout le monde a en tête son annonce d'un plan massif pour l'hôpital qui ne sera jamais tombé l'hôpital. Or, on a l'impression, et effectivement il y a eu les maladresses que vous avez citées, notamment à propos de l'intention du 14 juillet, qui ont réveillé la colère. Et c'est ce qu'on évoquait en début du déconfinement, les applaudissements allaient peut-être se tarir et la colère allait revenir, et c'est ce à quoi on assiste.
Alors il va falloir de l'argent. Comment, combien, on se pose la question dans un instant, à tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h.
Emmanuel Macron qui promet à l'hôpital de mettre fin à la paupérisation des soignants. On s'y arrête avec vous, Emmanuel Duteil. Il va falloir de l'argent, il va en falloir probablement beaucoup. Je ne sais pas à combien on peut chiffrer un plan qui serait pertinent pour l'hôpital. On entendait les salaires tout à l'heure et la paupérisation que décrivait Ève Roger. Dans un premier temps, il y a cette prime qui va arriver là, pour les soignants qui ont été confrontés à l'épidémie. Évidemment, ça ne suffira pas.
Ça ne suffira pas, mais la visite d'aujourd'hui n'est sûrement pas anodine en termes de calendrier, parce que c'est comme par hasard aujourd'hui que le décret qui valide la prime qui avait été annoncée il y a de cela maintenant plusieurs semaines pour les personnels soignants, le décret a enfin paru aujourd'hui au journal officiel. Et c'est vrai qu'on commençait à se dire depuis un bout de temps, mais quand est-ce que cette prime va arriver? Puisque si le décret ne sortait pas là dans les jours à venir, ça ne pouvait pas être versé sur la prime, ça ne pouvait pas être versé sur le salaire du mois de mai ou sur le salaire du mois de juin. Alors cette prime sera de 500 euros pour tous les membres du personnel hospitalier, de 1500 euros pour ceux qui ont travaillé dans les 40 départements les plus touchés. Par exemple, ça concerne toute l'Île-de-France, une grande partie de l'est du pays et une petite partie du nord du pays. Donc c'est une prime qui est bien évidemment symbolique pour ceux qui vont la toucher, mais on l'a bien entendu là dans les quelques expressions qu'on a pu entendre, ça ne suffit pas parce que comme l'expliquait extrêmement bien Ève Roger, il y a un malaise et le contre-coup va sûrement être encore beaucoup plus dur, donc c'est là où derrière il va falloir mettre des milliards d'euros, mais tout n'est pas une question d'argent à l'hôpital, c'est qu'il va aussi falloir tout réorganiser, mieux organiser l'hôpital public. Et c'est une réforme qui va prendre des années à véritablement apporter ses premiers effets. Et c'est toute la complication de ce genre de réforme, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a tout, sauf du temps pour la réussir.
Alors, on va suivre ça. Il y aura des concertations. Alors, Emmanuel Macron veut aller très vite. Il y aura une première concertation qui est annoncée la semaine prochaine. Et puis, il y a une première mobilisation des soignants qui est évoquée pour la mi-juin. Et notre invité tout à l'heure nous disait qu'il fallait appeler les Français qui ont applaudi les soignants aux fenêtres tous les soirs à 20h à rejoindre cette mobilisation. C'est un dossier, évidemment, qu'on va continuer à suivre. J'aimerais qu'on aille à Lyon rejoindre notre correspondant Jean-Luc Boujon. Bonsoir, Jean-Luc.
Bonsoir, Sébastien.
Pour parler de ce premier week-end de déconfinement qui s'amorce ce soir avec des règles. Attention, on ne parcourt pas plus de 100 km, mais ça va quand même donner un petit peu d'air à tout le monde. Qu'est-ce qui est prévu? Comment ça se passe chez vous en région lyonnaise? Il y a beaucoup de contrôles?
Alors pour l'instant, oui, effectivement, il y a beaucoup de contrôles d'abord sur les routes parce que c'est une région touristique et c'est la belle saison. Donc contrôles qui vont être faits notamment sur les routes vers la montagne parce que tout ne sera pas possible. Et la montagne, effectivement, va réouvrir ses portes avec beaucoup d'activités qui vont être possibles. La randonnée est possible, l'alpinisme dans certaines limites, le ski de randonnée, l'escalade dans certaines limites. Donc la montagne revit, donc il y a des contrôles qui vont se faire au péage, aux sorties de Lyon et à l'arrivée vers les stations ou vers les montagnes, l'Isère, la Haute-Savoie, la Savoie. Il y aura aussi beaucoup de contrôles, notamment dans Lyon, par exemple dans les grandes métropoles, notamment Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, mais notamment à Lyon, où pour l'instant on n'a pas vu énormément de monde, hein, mais il y aura énormément de policiers qui vont faire des contrôles sur les berges du Rhône qui ont rouvert depuis lundi. Les berges du Rhône, c'est un petit peu, ça ressemble un peu au canal Saint-Martin, voilà. Donc évidemment, la peur ici, ça a été de voir les mêmes scènes. Ça n'a pas été le cas jusque-là. Non, ça n'a pas été le cas pour deux raisons. D'abord parce que c'était les premiers jours, donc on a vu des Lyonnais plutôt disciplinés, avec des masques, avec des distances relativement bien respectées. Sur ces berges du Rhône, normalement, il y a des restaurants, ceux-ci sont fermés. Il y a des péniches, des restaurants, tout ça est fermé. Donc voilà, ça donne moins lieu à des regroupements. Et puis surtout, ces premiers jours de déconfinement ont été facilités par le temps qui a été exécrable.
Ça peut aider, effectivement.
Ça peut aider parce que c'était l'été jusqu'à dimanche dernier. Et puis depuis mardi, il pleut, il fait froid. Donc finalement, ça ne donnait pas vraiment lieu à des regroupements. Et donc le test, il va être vraiment ce week-end parce qu'on annonce, alors pas des températures caniculaires, mais en tout cas une remontée des températures, du soleil. Et puis c'est le week-end, donc les gens qui ont repris le travail vont être en repos. Donc le test, il va être vraiment là. Donc mobilisation forte des policiers sur les berges du Rhône et puis au niveau du parc de la Tête d'Or aussi qui a rouvert ses portes.
Qui a rouvert, puisque vous êtes en zone verte, hein, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Exactement.
Globalement, cette première semaine de déconfinement, vous décriviez des Lyonnais assez disciplinés dans les transports, notamment, ça s'est aussi bien passé, les distanciations peuvent être respectées.
Oui, d'autant qu'il n'y a pas eu énormément de monde dans les transports. C'était vraiment, il y avait très très peu de monde lundi. C'est légèrement monté en puissance dans les autres jours, mais les Lyonnais ont privilégié soit la voiture, il n'y a quand même pas eu de bouchons, soit le vélo, effectivement, soit la marche à pied. Mais on a vu que beaucoup de Lyonnais étaient restés en télétravail parce que franchement, il n'y avait pas énormément de monde. Dans les rues, il y avait du monde, mais sans que ce soit des affluences massives. Les distances étaient respectées. On a vu des queues devant les magasins, notamment les magasins de vêtements les premiers jours, mais ces queues-là sur les trottoirs était plutôt dû à un filtrage à l'entrée, hein, avec des sens de circulation. Donc pour l'instant, les choses se passent plutôt pas mal. On croise les doigts, on touche du bois pour que ce soit le cas encore ce week-end. Oui.
Voilà, déconfinement serein donc à Lyon. Merci Jean-Luc Bougeon, vous restez avec nous. Les Grandes Voix aussi, on se retrouve dans une minute.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs, entouré des Grandes Voix jusqu'à 19h.
Avec les Grandes Voix, on échange sur toute l'actualité pour essayer de décrypter les derniers épisodes, bien sûr, dans cette épidémie. Ève Roger, deux études aujourd'hui sur la fameuse hydroxychloroquine dont on parle beaucoup depuis les essais du professeur Raoult qui y croit beaucoup. Mais deux études qui disent ce soir que ça ne marche pas.
Disons que ces deux études qui sont sur des petits effectifs, hein, on est à 180 patients ou 150, mais avec deux groupes, hein, le fameux groupe témoin, où un groupe prend l'hydroxychloroquine et l'autre ne le prend pas. Et là, une étude française a testé l'hydroxychloroquine sur des patients plutôt en forme très grave, puisqu'ils sont hospitalisés pour une pneumonie, et puis regardait combien passaient en réanimation ou combien même décédaient. Et ils se sont rendus compte que quand on compare les deux groupes, entre ceux qui prenaient l'hydroxychloroquine et l'autre, c'était exactement la même chose. Et pour l'étude chinois, c'est un peu la même chose sur des formes plutôt légères ou moyennes, où là on regardait en combien de temps le virus disparaissait du corps au bout de 4 semaines, et c'était à peu près la même chose. La seule différence dans les deux cas, c'est qu'il y avait des effets indésirables cardiaques dans le groupe de ceux qui prenaient l'hydroxychloroquine. Alors, évidemment, c'est pas la première fois qu'on a des résultats d'études sur cette molécule, et c'est vrai qu'à chaque fois ça crée une polémique, puisque Didier Raoult a déjà dit qu'il y avait des biais à cette étude, que justement qu'il y avait des petits effectifs, et qu'il ne faisait pas exactement ce que lui préconisait, c'est-à-dire associer l'hydroxychloroquine à ce fameux antibiotique qui s'appelle l'azithromycine. Et c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi il n'y a pas une étude qui fait exactement pareil que fait Didier Raoult?
Il n'y en a jamais eu
enfin... Alors il y en a une qui est en cours à Montpellier, dont on n'a pas encore les résultats, mais c'est vrai qu'on se... Alors, pour tout vous dire, j'ai appelé l'investigateur de l'étude française cet après-midi, et je lui ai demandé demander, mais pourquoi justement on ne fait pas exactement la même étude, comme ça on en aurait enfin le cœur net. Et là, il m'a expliqué avec beaucoup de prudence, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans une polémique, que le protocole du professeur Raoult était un peu changeant. Donc c'est un peu compliqué de se caler exactement sur ce que lui préconisait, et puis qu'ensuite chacun faisait son étude et qu'il fallait creuser son sillon sans forcément faire toujours référence à Didier Raoult. Mais c'est vrai que ces deux études-là dont on parle depuis ce matin, la française et la chinoise, sont publiées dans une revue scientifique, le British Medical Journal, alors que vous savez, depuis le début, les protocoles Didier Raoult n'ont pas été publiés dans une revue scientifique, et puis il n'y a pas le groupe témoin, enfin bref, vous connaissez tous les biais de cette étude. Donc plus ça va, plus on avance, plus les études disent un peu toutes la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet spectaculaire et même pas un effet qu'on peut observer avec en plus ces effets indésirables. Donc l'épisode n'est pas clos, sachez seulement que le livre de
on n'arrive pas à mettre fin à ce débat,
on n'y arrivera jamais. Je crois qu'on n'y arrivera jamais, honnêtement je pense qu'il y aura toujours quelque chose pour empêcher qu'on puisse enfin avoir la vérité vraie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui le livre que Didier Raoult a publié pendant le confinement est la première vente dans les livres essais et à la 17e place dans le classement de livres hebdo. Ce qui montre encore toujours l'adhésion forte de la population à cet homme qui, évidemment,
qui est devenu une star à Marseille.
Voilà, c'est ça. Mais pas seulement à Marseille, sinon il ne serait pas premier des ventes dans le classement livres hebdo. Je crois que c'est vraiment devenu une star parce que je pense qu'il incarne un espoir. Il incarne un espoir, il incarne quelque chose un peu aussi de rétif au pouvoir, à la bien-pensance, etc.
Et en étant à contre-courant. On va parler on va se projeter sur l'après, espérons que ce soit l'après, juillet-août, l'été. Il y a eu cette déclaration d'Édouard Philippe hier. Les Français pourront partir en France, en vacances. Emmanuel Dutheil, est-ce que ça a déclenché ce qu'on attend, c'est-à-dire une vague de réservation? Est-ce que les professionnels du tourisme attendent surtout une vague de réservation dès aujourd'hui? Est-ce que ça prend une réalité?
Je ne sais pas si vous en faites partie, mais traditionnellement, quand la SNCF ouvre ses ventes pour l'été, je peux dire qu'il y a un paquet de Français qui met son réveil aux alentours de 5h le matin pour être sûr d'être le premier à obtenir le petit prix ou un billet pour partir sur son lieu de vacances choisi. La SNCF a décidé de lancer ses ventes d'été aujourd'hui, c'était ce matin. Il n'y a pas une frénésie énorme. Alors si je vous donne quelques chiffres, vous allez pourtant vous dire, mais si, 120% de progression de fréquentation sur le site Oui SNCF. Les ventes qui ont été multipliées par 5. Mais par rapport à la semaine dernière, il n'y avait rien la semaine dernière. On est pour vous donner une idée sur le double d'une journée d'un mois de mai normal. Donc vous voyez, par rapport à la frénésie que ça peut générer traditionnellement, on en est loin. Un élément que je trouve très intéressant dans les chiffres que nous ont communiqués la SNCF, c'est que les gens réservent 2-3 jours et principalement des week-ends pour le moment.
Il y a une prudence quand même.
C'est-à-dire que c'est mon interprétation. Pour le moment, les parents réservent uniquement pour emmener les enfants, pour être sûrs de s'en débarrasser cet été. Et puis ils vont penser ensuite à leurs vacances, puisque la SNCF s'attend notamment à un afflux pour cet été. Et quand on regarde le classement, ça se voit aussi. Alors c'est très classique, mais là c'est une information qu'on peut vous révéler ce soir sur Europe 1. Les villes qui sont les plus recherchées sur le site Oui SNCF, Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille, ce sont les quatre destinations les plus recherchées. Donc c'est en train de partir. Pour ceux qui auraient envie de passer leur week-end à chercher une destination de vacances ce week-end et à pourquoi pas chercher un train, sachez que vous pouvez y aller puisque vous êtes remboursé ou vos billets seront échangés et tout ça sans frais.
Ouais. Si,
c'est des petits prix ou c'est très cher?
Alors non, je suis allé regarder moi plusieurs destinations pour être très honnête, le Paris-Nantes, hein, puisque c'est là-bas qu'habitent mes parents, tiens je leur fais un petit coucou, ils seront contents. J'ai regardé par rapport au prix traditionnel que je peux payer pour un Paris-Nantes, et c'est pas vraiment des petits prix, mais on est vraiment sur une moyenne plutôt basse. Ouais. Mais il faut voir qu'il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'il y aura certes a priori tous les trains
un
comme s'engage là à la SNCF, mais il n'y a qu'une place sur deux. Ouais. Pour l'instant, sauf si la législation devait évoluer
d'ici là. Si ça bougeait d'ici juillet, la SNCF vendrait une deuxième vague de billets pour remplir les trains. Le aller à Nantes, je pense. Peut-être un mot de Lyon pour finir, Jean-Luc Bougeon, puisque Lyon est cité parmi les villes qui sont recherchées. Comment ces annonces ont été reçues chez vous, chez les hôteliers, les restaurateurs à Lyon, les annonces d'hier?
Oui, c'est un espoir, mais qui ne dissipe pas les inquiétudes, parce que pour l'instant, tout est fermé. Il suffit de se balader dans le quartier Saint-Jean, ce qu'on appelle le Vieux Lyon, pour voir ce quartier d'habitude rempli de tous les touristes vénitiens, les touristes français, les touristes étrangers. Aujourd'hui, c'est vide. C'est des restaurants à perte de vue, c'est les fameux bouchons lyonnais qui sont là dans ce quartier Renaissance, hein, avec les couleurs, les ocres jaunes, les ocres rouges, un petit peu ce paysage un peu florentin. Il n'y a personne en ce moment. Et donc, il y a une vraie inquiétude des professionnels, parce qu'on nous annonce une réouverture pour le 2 juin, on nous parle de juillet ou d'août, mais en attendant, il reste 2 mois, et si c'est une réouverture seulement le 2 juin, ce qui n'est pas garanti, ça crée beaucoup d'inquiétude.
Il faudra
d'inquiétude.
Voir aussi dans quelles conditions cette réouverture pourra se faire pour les restaurants. Ça.
Exactement, avec beaucoup de distance, donc ça ne va pas donner à plein tout de suite. Oui.
Merci beaucoup Jean-Luc Bougeon d'avoir été avec nous, correspondant d'Europe 1 à Lyon, Ève Roger, chef du service Société, Emmanuel Duteil, chef du service Éco, et Mickaël Darmon, éditorialiste politique. Mickaël, on vous retrouve dimanche, le grand rendez-vous à 10h avec les Échos. Vous recevrez le ministre de la Ville et du Logement, Julien de Normandie. Merci les grandes voix, bon week-end.
Bon week-end.
Merci,
bon
week-end.
Au revoir, merci.